Le dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel.
Le mois d'octobre 2007, selon Silvano Santini.
Octobre 2007, ou le théâtre du communisme. 90 ans après la révolution d'octobre, pendant que l'on continue à recenser les crimes de Staline, à l'heure où l'on révise aussi son histoire, et oui, Staline est redevenu, si l'on en croit ce qu'on en a dit récemment, un héros de l'histoire dans les manuels scolaires russes. Donc, 90 ans après la révolution d'octobre, on souligne aussi, en octobre 2007, le 40e anniversaire de la mort du Tché. Si le Tché est devenu un mythe, une icône, c'est parce qu'il porte d'abord en lui-même le rudiment d'un drame bien hegelien, une contradiction à dépasser. Comme s'il incarnait à lui seul le procès dialectique de l'histoire. Imaginons l'issue du drame de la manière suivante. Si l'on parvenait à surmonter la contradiction du Tché, l'histoire ne ferait-elle pas un pas en avant? Cette rengaine philosophique semble de mise pour comprendre quelque chose de ce saint pêcheur, de ce Christ torsionnaire, de cette star de la Révolution, de cet objet de consommation d'une génération de T-shirts, de cet objet de lutte d'une génération de guerrieros latino-américains. Deux livres sont parus en octobre 2007 sur le Tché. Ils écrivent, dans leurs dialogues sous-entendus et leurs contradictions, une nouvelle scène du drame guévariste. Il s'agit de « La face cachée du Tché » de Jacobo Machover, exilé cubain en France, écrivain et journaliste favorable au rétablissement de la liberté et de la démocratie à Cuba, et du Che Guevara, une braise qui brûle encore, d'Olivier Besancenot, homme politique français d'extrême gauche, porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, livre écrit en collaboration avec Michael Levy, anthropologue, philosophe et sociologue français, directeur de recherche émérite du CNRS, d'origine brésilienne. Je les ai rencontrés au mois d'octobre dernier, dans mon théâtre imaginaire, fruit de lectures réelles, celles de leurs livres, accompagnés de quelques numéros de revues et de journaux du mois d'octobre, The Economist, l'histoire et l'humanité. Pour ceux qui veulent tout connaître, qui aiment que les choses soient claires, comme si elles l'étaient jamais assez par elles-mêmes, j'annonce que les dialogues qui suivent sont construits à la manière du sampling, incluant plusieurs ajouts personnels, en espérant que les auteurs ne m'en voudront pas trop. Vous voilà donc averti. Monsieur Machover, quelle est cette face cachée du Tché? Le révolutionnaire argentin est un modèle à suivre pour la jeunesse, même s'il est pour les jeunes cubains une référence obligée, un objet de vénération. Or, ce que l'on sait moins ou que l'on reconnaît moins ouvertement, ce n'est que partout dans le monde, des hommes, jeunes ou moins jeunes, se sont immolés et ont tué d'autres hommes en ayant à l'esprit la figure du guerriero héroïque. Ce qui ne l'aurait certainement pas affecté outre mesure, puisque la conclusion de son ultime message s'énonce comme suit dans ses propres mots, je le cite, « Qu'importe où nous surprendra la mort, qu'elle soit la bienvenue, pourvu que notre cri de guerre soit entendu. » Combien sont-ils ceux qui ont un jour rêvé de mettre en pratique ces sentences pseudo-poétiques, macabres et barbares? Quel désir de grandeur et de sacrifice ont animé ceux qui s'ensuivent sa voix suicidaire en fait du Che Guevara un prophète rédempteur? Vous excluez sans doute, Monsieur Machover, mes deux autres invités, Monsieur Besancenot et Monsieur Levy. Savent-ils seulement tous ceux qui continuent à brandir sa figure comme étendard, comme vous le faites, que le Che n'avait comme idéologie que le culte de la mort, la sienne et celle des autres, ainsi que l'instauration de régimes totalitaires partout dans le monde? Il n'y a qu'un pas, reconnaissez-le, Monsieur Machover, pour en faire un stalinien fanatique. Je le fais volontiers. Concevez-vous alors votre geste au même titre que les nombreux ouvrages, articles ou enquêtes qui ont permis de mettre en lumière les nombreux crimes cachés du communisme? Je dirais simplement ceci. Il y a encore des archives qui dorment à La Havane. De votre côté, Monsieur Besancenot et Monsieur Levy, j'imagine qu'avec l'image encore romantique que vous donnez du Tché en reconduisant la dimension utopique de son projet et en ressentant une vive sympathie, il faut le reconnaître, pour l'éthos du révolutionnaire, que vous vous sentez interpellé par les propos de M. Machover. Revenons d'abord sur ce qu'a dit le fondateur du marxisme latino-américain au début du XXe siècle, José Carlos Mariátegui, dans Defensa del Marxismo. L'éthique socialiste ne surgit pas mécaniquement d'un intérêt économique, elle s'affirme dans la lutte de classe livrée avec un esprit héroïque, une volonté passionnée. Le Che s'inspire-t-il de ces lignes, de cette tradition empreinte de romantisme? Difficile à dire. Mais en donnant au socialisme qu'il souhaite construire cette portée éthique, il rompt radicalement avec la version orthodoxe et glaciale du socialisme réel des pays de l'Est. Du coup, sa conception éthique reste à titre posthume la meilleure réponse à tous ses détracteurs, qui cherchent, bien des années plus tard, à le faire passer pour un sanguinaire. Oui, le Che a tué durant la guérilla et durant la révolution. Je suis content de vous l'entendre dire. Nous continuons. Oui, le Che a tué durant la guérilla et durant la révolution. Il a mené une lutte armée avec le grade de commandant pour renverser la dictature de Batista. Oui, plutôt que de se retrancher derrière des subalternes, il a assuré lui-même la direction pour les exécutions de plusieurs dizaines de bourreaux et de dirigeants du régime de Batista. Soyez juste! Le Che fit exécuter plus de 180 sentences de mort. La mémoire du Che n'est pas la même pour tout le monde. Vous serez d'accord avec moi, M. Besancenot et M. Levy. M. Machover, permettez-nous de continuer. Le Che, disions-nous, a assuré lui-même la direction pour les exécutions de plusieurs dizaines de bourreaux et de dirigeants du régime de Batista aux premières heures de la Révolution. Mais rien ne permet de le comparer à l'épuration politique stalinienne. Pour nous, 40 ans après sa mort, il semble que le Che soit épargné par le discrédit qui plombe, à l'aube du 21e siècle, l'idéologie communiste, traînant malgré elle dans son sillage le souvenir de sa caricature sanglante, celle du stalinisme et du socialisme réel. Oui, certes, Staline a donné l'ordre au chef de la NKVD, héritier de la Tchéka, de faire arrêter d'exécuter plus de 750 000 koulaks, criminels et autres éléments antisoviétiques en 37-38. Cette grande terreur, comme on l'appelle, n'a rien de comparable avec les ordres du Che. Mais devient-on tortionnaire ou sanguinaire seulement sur une question de quantité, sur un bilan statistique? Nous pensons que la libération rencontre ce dilemme. La libération de la France en 44-45 s'est soldée par l'exécution de milliers de collaborateurs. Oui, en effet, je suis d'accord avec vous, monsieur Besancenot et Levy. Même Marguerite Duras n'a pas été tendre, paraît-il. Elle qui observait avec sympathie, dit-on, ces jeunes gens avides de prendre leur revanche et désireux de faire régner rapidement la justice. Il faut en découdre avec des ennemis à qui, disait-elle, il fallait faire du mal. Voici quelques notes de Duras trouvées dans un carnet daté de 24 août 1944. Je cite, ce carnet. « Les hommes crient. Ils se pourlèchent les lèvres du sang versé. C'est sucré. C'est du lait. Dans cette nuit du 23 août, les hommes fouinaient la nuit comme des nouveaux-nés. Cherchaient le sein. Le sang. C'est bon. Fête du sang. Fleur offerte. Ouverte. À l'instant. Condamné repli du sang pour encore gicler. Mais déjà les adorables lèvres s'en trouvent sur leur passage. Lèvres amoureuses. Désordre. Plénitude des plénitudes. C'est scandaleux, vous ne trouvez pas? Je dirais scabreux!
Nous continuons. Tous les témoignages de l'époque venus des deux camps s'accordent sur le fait que le Che a toujours marqué le plus grand respect pour la vie, s'opposant aux exécutions sommaires et aux combats inutiles. Ernesto Guevara condamnait aussi de manière explicite le terrorisme. L'attentat et le terrorisme aveugle ne doivent pas être utilisés, disait-il. Il clamait régulièrement à ses compagnons pour empêcher les tueries gratuites. Nous ne sommes pas comme eux. Il soignait les prisonniers et donnait des ordres stricts pour établir la clémence la plus large possible. Le Che regrettait publiquement le caractère extrême de la condamnation à mort.
C'est faux! Il aimait voir souffrir ses ennemis, même moralement, durant les simulacres d'exécution. J'ai recueilli le témoignage de Fausto Menocal, ancien révolutionnaire aujourd'hui exilé à Madrid. Voici ce que le Che lui a fait subir en 1959. Accusé d'être un mouchard et d'avoir balancé un groupe de révolutionnaires, il fut d'abord emprisonné à l'intérieur de la cité sportive, d'où de nombreuses personnes étaient amenées directement, par groupe de trois sans jugement, devant le peloton d'exécution. Il fut ensuite emprisonné à la Cabaña entre le 5 janvier et le 30 avril 1959. Parmi les traitements qui lui furent infligés, il dut rester debout pendant 4 heures, jour et nuit, sans manger, sans boire et sans faire ses besoins, dans le bureau du commandant, un long couloir où circulaient des hommes en armes et en uniforme qui lui faisaient signer des ordres ou qui lui rapportaient des instructions, se moquant ouvertement du prisonnier, jusqu'au moment où il s'écroula d'inanition. Guevara en personne se chargeait de l'interroger. On le jeta ensuite dans une petite cellule avec plusieurs autres personnes dormant à même le sol. Un soir, le Che vint le voir pour lui dire « Nous allons te fusiller ce soir. » « J'ai été amené devant le peloton, » m'a raconté M. Monacal. « On m'a attaché à un poteau. On m'a bandé les yeux. Puis, il y a eu une décharge de fusil. Alors, on est venu tirer ce que je croyais être le coup de grâce. J'ai senti un grand bruit sur ma tempe. C'était en fait un coup porté avec la crosse du fusil. À la suite de quoi, je me suis évanoui. Je croyais être mort. Jusqu'à ce que, une fois, ramené dans ma cellule, j'ai entendu le chant du coq. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais vivant. » Ça me rappelle une scène dans le film « Les ordres » de Michel Brault. Vous connaissez?
C'est un film français?
Non, québécois. J'ai jamais entendu parler. Il y a dans ce film un simulacre d'exécution qui se déroule à peu près de la même manière. Il s'agit d'un jeune père de famille qu'on accuse sans fondement de sympathie avec les terroristes du Front de libération du Québec lors des événements d'octobre 70. Décidément, tout arrive en octobre. Même en 1837, c'était en octobre, dit-on. Ce père de famille, donc, est incarcéré avec d'autres sympathisants présumés du FLQ, jusqu'à ce qu'une nuit, les gardiens simulent son exécution en tirant des balles à blanc dans sa direction. Les gardiens qui ont fait le coup n'ont jamais été blâmés pour ce geste, encore moins traités de fanatiques staliniens. En fait, ils étaient de l'autre côté, du bon côté, semble-t-il. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'une même histoire sortide s'accorde avec la police et le révolutionnaire. Les schémas narratifs propres à susciter la peur chez l'homme sont, pour ainsi dire, universels et en nombre assez restreint.
Nous continuons. Le Che regrettait publiquement le caractère extrême de la condamnation à mort. Répétons-le. D'ailleurs, il ne participait pas aux tribunaux militaires. Organiser légalement les exécutions avec des tribunaux était, à ses yeux, le meilleur moyen d'éviter des lapidations de masse. Pas question pour lui d'en faire de la poésie, une fête de sang, comme le fantasmait Duras. Une chose avec la distance qui nous sépare des événements est de regretter l'approbation philosophique du Che quant à l'usage de la peine capitale, même si celle-ci s'opérait probablement en contre-cœur. Pour notre part, nous en rejetons le principe. Autre chose est de faire passer Guevara pour un bourreau et un assassin. Ces détracteurs, dont vous faites partie selon nous, M. Mathiovert, auraient du mal à lui créer un casier judiciaire.
Mais il n'est pas question de lui créer un casier judiciaire, mais d'établir des faits. Le Che était un tueur. Vous ne semblez pas effectivement vous entendre sur ce point. À vous entendre, j'ai même l'impression d'avoir affaire à deux personnages plutôt qu'un. Il y a deux Che, semble-t-il, et une seule histoire. Par exemple, vous n'interprétez pas du tout de la même manière son geste brutal sur une jument dans la jungle bolivienne.
Cette histoire révèle bien le caractère démentiel de l'homme, qui, il faut le dire, se sentait abandonné à ce moment. En effet, à défaut de pouvoir se défouler sur les Soviétiques ou d'avoir une explication franche avec Fidel Castro, le Che s'en prenait constamment à ses propres hommes, ses compagnons d'armes, de toutes les aventures, les punissant pour un oui ou pour un non, les privant des rations alimentaires auxquelles ils avaient droit, allant jusqu'à les frapper ou les menacer de mort. Il se sentait abandonné, et plutôt que de se résigner, il se sentait tout puissant dans une jungle hostile. C'est là que je vois un lien entre le Che et l'OP de Aguirre, celui qui a été mis en scène dans le film d'Herzog. Il y a un moment dans le film où Aguirre, après avoir maltraité ses hommes, abandonne un cheval sur la berge à défaut de le tuer. Sans doute agit-il ainsi pour ne pas choquer sa fille qui l'accompagne et qu'il désire secrètement épouser. Quelle démence! Le Che, lui, en proie à des crises d'asthme récurrentes, privé de médicaments qui lui étaient nécessaires, il lui arriva même de donner un coup de couteau à une jument sur laquelle il était juché parce qu'elle refusait d'avancer. Moi, je suis un déchet humain, dit-il, et l'histoire de la petite jument prouve qu'à certains moments, j'arrive à perdre le contrôle de moi. Oubliez les sentiments pour les animaux dont il faisait preuve du temps de la Sierra Maestra. Vous voulez parler du petit chiot?
Oui, c'est ça, le petit chiot assassiné qui valait plus qu'une vie humaine. De votre côté, messieurs Lévy et Besancenot, vous décrivez l'épisode de la jument d'une autre façon. Vous semblez vouloir l'excuser. Et vous évitez de citer le passage où il dit se sentir comme un déchet humain.
Nous ne voulons lui trouver aucune excuse, mais la situation était intenable. Lui et ses guerriers roses sont morts de faim et de soif. Ils mangeaient de la viande avariée et buvaient leur urine. Il savait que lui-même frôlait la folie lorsque, ensorcelé par l'épuisement et la colère, il a tué sa mule au début août. Sachant que l'impact psychologique avait été terrible sur le groupe, il entreprit de se racheter en donnant l'exemple plus que jamais. Ce qu'il a fait en escaladant le premier, un rocher qui barrait la route et que personne n'osait franchir. Mais la question n'est pas là. Tuer une mule ne fait pas de quelqu'un un tortionnaire. Monsieur Machauvert peut bien ressasser les anecdotes qu'il veut, les interpréter dans tous les sens en les accompagnant de mille sous-entendus. Il n'arrivera jamais à grossir suffisamment le trait pour transformer le Tché en un sbire du communisme. La violence du Tché avait d'autres sources que celle d'une volonté de mal. Le Tché connaissait et faisait probablement sien le violent réquisitoire de Franz Fanon, ou encore, si l'on prétend que le legs du Tché ne fut que la transmission de la violence, faut-il rappeler la thèse 12 de Walter Benjamin sur le concept de l'histoire? C'est la mémoire des ancêtres vécus et martyrisés qui inspire le combat présent des classes opprimées. Vous oubliez toutefois, comme tous ceux qui veulent sauvegarder la figure immaculée du Tché, de citer une intervention importante du Tché à l'ONU en 1964. La voici, telle que je la cite dans mon livre. « Nous avons fusillé, nous fusillerons encore et nous continuerons à fusiller tant qu'il le faudra. Notre lutte est une lutte à mort. » Nous savons quel est le résultat d'une bataille perdue, et les contre-révolutionnaires doivent savoir aussi quel est le résultat de la bataille perdue à Cuba aujourd'hui. Pourquoi ne citez-vous pas ce discours si éloquent? Nous ne le citons pas, mais nous avons eu l'honnêteté d'inclure un passage tout aussi problématique. Lorsqu'il évoque la haine comme facteur de lutte, la haine intransigeante de l'ennemi, dit-il, qui pousse au-delà des limites naturelles de l'être humain, et en fait une efficace, violente, sélective machine à tuer. Ajoutant même, nos soldats doivent être ainsi. Un peuple sans haine ne peut triompher d'un ennemi brutal. Avec le recul, ce type de déclaration peut faire froid dans le dos. Mais vous modérez immédiatement votre propos en disant, et je vous cite, « Heureusement, le comportement effectif du Tché est loin de cette froideur, comme en témoigne le passage de son journal en Bolivie. On a pris comme prisonniers deux nouveaux espions, un lieutenant de carabiniers et un carabinier. » On leur a lu la brochure et ils ont été laissés en liberté. Vous tenez à préciser aussi qu'il a eu pitié de deux soldats. De la poudre aux yeux! Guevara prit lui-même l'initiative, sans attendre les ordres venus d'en haut, de faire procéder à l'arrestation, à la condamnation à mort et à l'exécution de certains membres du régime Batista. Les intellectuels français ont joué un rôle dans le malentendu autour du Tché. Il est en partie une création française. Sa rencontre avec Sartre et de Beauvoir, par exemple. Ils ont été étonnés et ravis du fait que le révolutionnaire argentin parlait le français. Son français très scolaire était l'un des éléments qui rehaussait sa stature auprès des étrangers, les principaux étant des intellectuels et révolutionnaires français. Guevara acquérait ainsi la réputation d'un combattant internationaliste. La légende forgée autour du Tché est d'abord une création française qui s'est internationalisée avec le temps. Il était tentant pour ses interlocuteurs d'en faire un polyglotte, une qualité supplémentaire que l'on pouvait ajouter à celle de médecin, d'économiste, d'orateur, d'homme d'État. Cela permettait de relativiser l'apparence de ce guerriero sans gêne, devenu, en peu de temps, l'un des piliers du nouveau pouvoir. Si je vous comprends bien, M. Machauvert, vous désirez tout bonnement déboulonner le mythe du Tché, ce qui n'est pas une mince tâche. Que pensez-vous, M. Besancenot et M. Levy, de cette idée que le Tché est une création française? Vous considérez-vous comme en train d'y participer? Notre but n'est ni de répondre à ce genre d'insinuation, ni de faire du Tché une création quelconque. Mais n'est-il pas vrai que Debré y est pour quelque chose? Un peu avant la mort du Tché, rappelons-le, lorsqu'il avait pour ainsi dire disparu, Debré n'avait-il pas anticipé, voire produit le mythe qu'il est devenu aujourd'hui? Voici ce qu'il a écrit dans Révolution dans la Révolution. Je cite, Monsieur Debré. Le camarade Che Guevara a repris le travail insurrectionnel. Quand il réapparaîtra, il n'est pas hasardeux d'affirmer que ce sera à la tête d'un mouvement guerriero comme chef militaire et politique indiscuté. Le Che, comme on le sait, était réapparu mort, ce qui n'infirme pas pour autant la prédiction de Debré, mais lui donne, pour ainsi dire, une extension assez considérable. En étant mort, le Che peut virtuellement être à la tête de tous les mouvements guerrieros. Debré ne songeait sans doute pas à cette éventualité à l'époque,
mais c'est pourtant ce qui est arrivé avec le guévarisme latino-américain. Et on pourrait mettre les guévaristes hein, latino-américains. L'une des dernières actualisations du Che serait celle du mouvement zapatiste en 1994. Voilà d'ailleurs peut-être pourquoi hein, Marcos se présente comme un sous-commandant. C'est du pur fantasme qui conduit directement au suicide, que seuls encore des Français, en l'occurrence messieurs Besançon et Lévy, veulent perpétuer. Pourtant, il faut le reconnaître qu'ils ne vont pas du tout dans cette direction, monsieur Machauvert. Pour eux, la révolte au Chiapas, qui a suscité une conférence à laquelle ont participé toutes sortes de groupes, représente le moment de naissance de l'altermondialisme. C'est bien ce que vous avez fait, monsieur Besancenot et monsieur Lévy. Vous placez le Che à la tête du mouvement altermondialiste, n'est-ce pas? Nous le faisons en suivant l'esprit critique du Che, qui ne voulait faire aucun compromis, qui n'était pas ivre non plus du pouvoir. Rappelons-le, dans la conférence d'Alger en 1965, le Che a dit tout haut ce qu'il pensait. L'URSS domine le marché de l'Est en utilisant des méthodes capitalistes qui consistent à exercer des pressions économiques sur les petits joueurs, comme Cuba. Or, le Che imaginait au contraire une sorte de pacte internationaliste de tous les pays socialistes. Ils ne doivent pas se manger entre eux, mais s'entraider. C'est cette dimension internationaliste sans concession aucune aux lois du marché que nous retenons du Che. Mais plus encore, la dynamique du mouvement altermondialiste est guévariste parce qu'elle suit trois moments distincts, complémentaires, qui s'y rapportent. Le premier est la négativité agissante. Il s'agit d'un mouvement qui repose sur un sentiment de refus radical qui attaque la nature capitaliste de la domination. Sans ce sentiment radical, le mouvement altermondialiste n'existerait pas. Le second moment est celui des propositions concrètes. Abolition de la dette des pays du tiers-monde, suppression des paradis fiscaux, taxation des transactions financières, etc. Ces propositions sont-elles réalistes? Il suffit que le rapport de force change et que les opinions publiques se mobilisent pour que les responsables soient obligés de faire des concessions. Mais l'important de ces propositions, c'est qu'elles sont extensibles. Toute victoire partielle, toute conquête, toute avancée permet de passer à l'étape suivante, à l'étape supérieure, à une revendication plus radicale. C'est à cette étape supérieure qu'apparaît la tête du Che pour vous? Oui, nous touchons ici au troisième moment, la dimension utopique. Elle est aussi radicale. Un autre monde est possible. Il ne s'agit pas seulement de corriger les excès du monde capitaliste et de ses monstrueuses politiques néolibérales, mais de rêver et de lutter pour une autre civilisation, un autre paradigme économique et social, une autre forme de vivre ensemble sur la planète. C'est à l'aune de cette ambition qu'il convient de reprendre l'héritage éthique, révolutionnaire et humaniste d'Ernesto Che Guevara. Vous suivez somme toute ce que disait Daniel Ben Saïd en 1997, je le cite. L'image du Che reste avant tout celle d'un internationaliste en acte, opposant irréductible d'un monde livré au pillage et aux misères de la mondialisation impériale. L'accord moral et politique est possible selon lui, même dans ce monde démoralisé. S'il vous intéresse et vous attire encore aujourd'hui, c'est pour toutes ces raisons, et aussi parce que, disparu à 39 ans, jeune encore, son image associe indissociablement la jeunesse à la révolution. Mais c'est là le problème! On se met à faire des films sur le Che. Son caractère internationaliste est toujours payant. Son histoire se vend partout dans le monde. Après le film de Walter Salles, Steven Soderbergh se remet avec un film qui doit sortir en 2008 sur le Che. Guérilla, vous imaginez quel titre. On y verra le Che aux Nations Unies, paraît-il. J'espère qu'on ne coupera pas le passage dans lequel il dit qu'ils ont fusillé et fusillé encore à Cuba. Ces films ne rétabliront pas la vérité, jamais. Mais perpétueront la fiction du Che. Une chose aura au moins changé avec ces super productions hollywoodiennes, monsieur Machauvert, vous devez le reconnaître. Le Che ne sera plus seulement une création française. Nous voilà donc revenus au début. Le Che trouve peut-être sa véritable fin, non pas dans l'histoire, mais comme une histoire. Il a pour ainsi dire un fort potentiel diégétique, que ce soit pour étayer le récit altermondialiste, pour séduire le monde du divertissement ou pour appuyer les doléances des victimes de la révolution cubaine. Le Che sert à tout le monde. Peut-être incarne-t-il inconsciemment une sorte de sentiment que tout le monde partage un peu, sans vraiment se l'avouer, celui de la jeunesse. Leur révolution sur grand écran redonne un peu de vigueur le temps de la projection, sentiment qui peut traîner même quelques jours après le film. N'est-ce pas ce qu'on attend du cinéma?
Mais nous ne jouons pas dans un film, nous sommes pas comme une histoire. Le combat pour le renversement du capitalisme devrait être ressenti par chacun comme une urgence personnelle, une urgence plus que jamais d'actualité.
Certes, je ne sais pas si la figure du Che, comme le prétend Jorge Castañeda, a retardé l'établissement d'une démocratie de gauche en Amérique latine. En tout cas, Hugo Chavez ne sourcillerait pas assurément si on lui posait la question. Dans son nouveau programme d'éducation de 600 pages, il veut faire de ses petits des hommes nouveaux à la manière du Che. Le film, pour Chavez, se projette dans les manuels scolaires. Une chose reste pourtant inchangée, c'est à la jeunesse que parle le Che. Voici ce qu'un écrivain révolutionnaire québécois a dit sur la jeunesse. « L'agressivité n'est pas la maturité. Elle est une première façon de s'affirmer. » Une tentation pour briser la tutelle, pour faire sauter le trône, simplement par désir de justice, soif d'égalité, encore. C'est dans la contradiction que l'enfant s'affirme, et l'agressivité est le premier pas vers la maturité. C'est bon signe quand un enfant proteste. Il est même souhaitable, selon une certaine optique de l'éducation, que l'enfant proteste énergiquement sans peur. La maturité suivra bien. C'est un écrivain qui l'a écrit. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît le mécanisme d'une bonne histoire, d'un film, d'un récit, lequel mécanisme est comparable à la jeunesse et pourquoi pas à la révolution. Cette agressivité première qui s'affirme dans une contradiction, n'est-ce pas le ressort du drame? Tant que l'image du Che restera jeune, elle sera dramatique. Et on fera des films, des livres, on se contredira, on en fera des histoires, peut-être même un faux dialogue. La vérité du Che est une vérité diégétique. C'est peut-être la seule vérité sûre dont nous disposons aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais simplement que le Che n'a pas encore atteint la maturité. Ce qui est souhaitable pour certains, lamentable pour d'autres.